Europa 27.
Bonjour, vous êtes bien sur Divergence FM et c'est Europe 27 qui commence pour ce premier numéro. J'ai à mes côtés Geoffrey. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Yves.
Et messieurs Gérard Rousset et Jean-Claude Jégot sont nos invités de la Maison de l'Europe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquons un peu ce qu'est cette nouvelle émission Europe 27 qui entame donc sa première saison sur le 93.9. Europe 27 s'est diffusé le 4e mardi du mois à 13h30 sur Divergence, une émission d'une heure qui traite de l'Europe, de l'Union Européenne, de par ses institutions, mais aussi l'Europe d'un point de vue local, un point de vue qui n'est pas forcément montpelliérain. En effet, vous pouvez retrouver à la fin de l'émission qui se divise en trois parties, un portrait d'un pays de l'Union Européenne fait par une personne qui vient d'un pays des 27. Aujourd'hui, c'est la Pologne qui est à l'honneur et c'est un peu le moment de se détacher des clichés et des préjugés que nous avons sur nos voisins européens. Mais avant ce portrait, nous faisons donc une revue de presse et un lexique de l'Union Européenne pour se tenir au courant de tout ce qui se passe aux alentours. Quant à la partie centrale de l'émission, la deuxième partie de l'émission, elle est dédiée à une thématique différente chaque mois avec deux à trois invités différents. Et aujourd'hui, pour cette émission d'introduction, nous parlerons de la Maison de l'Europe de Montpellier, dont nos invités d'ailleurs sauront parler bien mieux que moi. Comme je le disais, Europe 27 est une émission mensuelle, donc notez bien les prochains rendez-vous sur vos agendas. Geoffrey, dis-nous les rendez-vous.
La première émission donc est aujourd'hui, hein, nous sommes d'accord.
Oui, tout à fait.
Voilà, la deuxième émission sera consacrée à l'histoire de l'Union Européenne. Elle sera diffusée le mardi 24 novembre. En décembre, on aura le traité de Lisbonne, l'Irlande, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ensuite, le 26 janvier 2010, l'Europe politique et Barroso, José Manuel Barroso, le président de l'Union européenne. 23 février 2010, les eurosceptiques et les europhiles. Ça nous promet un grand débat.
Oui, les eurosceptiques, les europhiles et les autres.
Ah ben, écologie en fin mars à peu près. Qu'est-ce que vous voulez? On connaît pas encore toutes nos dates. Hein. Ensuite, le 27 avril, les régions en Europe, la citoyenneté européenne et la parité homme-femme. Les médias européens le 25 mai. Oh, c'est la date de mon anniversaire.
Ah bah voilà. Écoute, ça
j'aurais sera... quelque chose à faire ce jour-là. Et les candidats à l'Union européenne et l'Europe économique en juin.
Qui est donc la dernière émission pour cette première saison.
Tout à fait.
Alors nous sommes avec nos invités Jean-Claude Jégot et Gérard Rousset qui sont respectivement président et directeur de la Maison de l'Europe. Avant de rentrer un peu dans la question de la Maison de l'Europe que vous dirigez, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours ?
Oh, mon parcours personnel, disons professionnellement, j'étais enseignant. Je suis historien, donc pendant la plus grande partie de ma carrière, j'étais historien, prof d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Et je me suis intéressé à l'Europe depuis de très longtemps et c'est à l'occasion d'un débat au moment de Maastricht que j'avais été contacté par celui qui venait de reprendre comme président la Maison de l'Europe de Montpellier, qui était député, enfin à cette époque-là, était ancien député européen, Georges Sutrat-Germain.
Vous, Gérard Rousset ?
Alors c'est un petit peu plus compliqué en fait. Botaniste de formation, militant associatif dans le tourisme social pendant de nombreuses années. Et puis comme mon président, ben un jour j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage de rencontrer Georges Sutrat-Germain.
Passons maintenant à la revue de presse, Geoffrey, que tu nous as préparée. Alors, qu'est-ce qui a fait l'actu de l'Europe en ce mois d'octobre, Geoffrey ?
Alors, tout d'abord, on va commencer par la Grande-Bretagne. Pour lutter contre la pédophilie, le fichage de tous les travailleurs dans le domaine de la petite enfance est entré en vigueur ce lundi 12 octobre. Cette initiative concerne les entraîneurs, les parents volontaires d'activités sportives ou extrascolaires, mais aussi les professeurs, les médecins et d'autres professions médicales. En tout, c'est un peu plus de 11 millions de Britanniques qui pourraient être ainsi fichés sur ce registre. C'est le fruit d'une réflexion après un drame en 2002. Deux fillettes d'une dizaine d'années qui ont été violées et tuées par un gardien d'école.
Aïe. Oui, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à la nouvelle mouture du fichier Edwige qui fait débat en ce moment en France.
Ça serait intéressant de voir les revues de presse à ce niveau-là de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, tout à fait. Quel est le deuxième article que tu nous as sélectionné ?
Alors, Herta Müller. Prix Nobel contre les dictateurs, prix Nobel de littérature 2009. C'est une écrivaine allemande d'origine roumaine. C'est le troisième prix Nobel en 10 ans pour un auteur de langue allemande. Alors ça, c'est la première information. La deuxième, c'est que son histoire, vendue à l'Allemagne par une pratique courante dans les années 1980 en Roumanie, qui vendait ainsi ses Allemands et ses Juifs.
Ah, c'est très sympa.
Ben oui, l'Europe, c'est très joli, c'est rose. Elle met au devant de sa plume la minorité allemande de Roumanie qui a quitté le pays après 1989 et s'est fondue dans l'ensemble de la nation allemande après avoir participé à une autre histoire. Ensuite, quelque chose qui concerne un peu plus les Français. L'Union européenne débloque 280 millions d'euros pour sortir de la crise agricole, donc notamment les producteurs de lait, etc. La grogne générale des agriculteurs européens a fini par payer. Ainsi, aujourd'hui même, 280 millions d'euros ont été débloqués par la Commission européenne pour les agriculteurs. La Cour des comptes européenne, vendredi dernier, publiait un rapport condamnant la libéralisation engagée pour cause de risques majeurs et la régulation vue comme le seul moyen permettant d'éviter la surproduction. La répartition fait des grands pays de production agricole de l'Europe les plus grands bénéficiaires, donc on peut compter la France, l'Allemagne, la Pologne, qui sont vraiment les grands gagnants. La France bénéficiera de 60 millions d'euros supplémentaires, en plus des 98 millions d'euros déjà levés au niveau national la semaine dernière. Donc ça va faire un sacré pactole, et c'est pas plus mal. La Turquie, ensuite, l'éternel débat, doit-elle ou non rentrer dans l'Union européenne ?
Alors, est-ce que ça avance ?
Eh bien, le 14 octobre, la Commission européenne a adopté la stratégie annuelle d'élargissement de l'Europe. Bruxelles reconnaît dans cette stratégie que les efforts d'Ankara pour mettre à jour les structures politiques, juridiques, économiques et aussi la tolérance de la minorité kurde tout à fait conforme aux exigences de l'Europe. Cependant, elle appelle la Commission à la poursuite des efforts sur la question de Chypre, plus fort encore que Chypre, le respect des droits de l'homme. À la liste des points négatifs, violation de liberté de culte, de la liberté d'association et de la liberté syndicale.
L'élargissement de l'Europe, donc, qui fera le sujet d'une émission un peu plus tard dans l'année.
Tout à fait. Et enfin, dernière chose, le traité de Lisbonne, un autre de nos sujets.
Ah oui, lointain. Oui, ça c'est le mois d'octobre, on est en plein dedans.
Voilà, et notre cher ami, le président de la République tchèque, Václav Klaus, qui nous dit, je cite, « Les conditions que j'ai formulées pour signer l'accord sont sérieuses et l'idée que je peux oublier mes objections est mal fondée. » Donc, il campe sur ses positions. C'est ce qu'il a dit lors d'une rencontre avec son homologue russe, Dmitri Medvedev. Donc, il exclut catégoriquement, ce cher président tchèque, de signer le traité de Lisbonne. Le mercredi 14 octobre, il a même dit qu'il n'était pas disposé à revenir sur les objections qu'il a formulées à l'encontre du nouveau traité européen. Václav Klaus oppose ainsi une fin de non-recevoir au président de la Communauté européenne, c'est-à-dire José Manuel Barroso. Le gouvernement tchèque a déjà signé le traité de Lisbonne et les deux chambres du Parlement l'ont ratifié. Parce qu'il faut savoir que dans la constitution de la République tchèque, c'est non seulement les chambres qui ratifient, mais en plus le chef de l'État doit apposer sa signature. Donc le traité ne peut pas encore être totalement ratifié tant que Václav Klaus n'apposera pas sa signature et tant qu'on ne trouvera pas un consensus. Donc.
D'accord, eh bien merci Geoffrey, donc fini pour cette revue de presse. Donc on va passer directement à la prochaine section de cette partie, disons-le comme ça, si même c'est pas génial. Donc on va passer au petit lexique de l'Union européenne que nous faisons chaque mois. Et quel est le mot aujourd'hui ?
Alors le mot est Europol.
Europol, comme Interpol.
C'est grosso modo la même chose, mais on pourrait voir ça comme une évolution d'Interpol au niveau européen. Je m'explique. Alors il faut savoir avant tout que Europol, c'est 625 policiers, gendarmes et douaniers qui viennent de toute l'Europe, qui sont regroupés en une seule organisation. Donc c'est un organisme qui traite les renseignements sur la criminalité et a pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités compétentes des États membres. Administration de la coopération concernant la prévention contre les stupéfiants, l'immigration clandestine, le terrorisme, le faux monnayage, la traite des êtres humains, y compris la pédopornographie, et aussi trafic illicite des véhicules, cybercriminalité, criminalité financière et le blanchiment d'argent. Ensuite, donc ils interviennent lorsqu'une structure criminelle organisée fait ses affaires entre deux États minimum de l'Union européenne. Ça facilite l'échange d'informations par les officiers de liaison européenne. Mais aussi, ils font des analyses opérationnelles pour faciliter les interventions de n'importe quel service d'ordre européen. Un pays européen peut demander une analyse Europol. Ensuite, ils établissent des rapports stratégiques sur n'importe quelle menace criminelle. Puis expertise et support technique à toutes les enquêtes à peu près menées à l'intérieur de l'Union européenne. Il suffit de demander, ils sont là pour ça. Quelques petites particularités, j'ai là le budget d'Europol. Il faut savoir que Europol est financé sur la base du produit naturel brut de tous les États membres.
Ah, donc c'est un pourcentage.
C'est un pourcentage. Ainsi, pour cette année, pour 2009, le budget d'Europol est de 65,4 millions d'euros. La direction de cette organisation est nommée par le Conseil de l'Union européenne, plus précisément les ministres de la Justice et des Affaires intérieures des 27 pays de l'Union européenne. Le directeur, Rob Wainwright, qui vient du Royaume-Uni. Un peu d'histoire ?
Allons-y, oui, s'il y a quelques dates, pourquoi pas.
Voilà, alors Europol trouve ses racines dans le groupe Trevi, qui était une structure intergouvernementale créée en 1976 lorsqu'il n'y avait que 12 pays dans l'Union européenne. Cette organisation n'était pas tout à fait reconnue, tout du moins elle n'avait pas de statut administratif fixe, ce qui a été corrigé que lors du traité de Maastricht en 1992. Europol a été créé sur les bases de Trevi. Europol est basée à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a débuté réellement ses activités le 3 janvier 1994 en menant des opérations d'envergure limitée sous la forme d'une unité qui luttait contre la criminalité.
En plus, ça rime.
Eh oui. La convention Europol a été ratifiée par tous les États membres de l'UE, entrée en vigueur le 1er octobre 1998. Donc, le 1er janvier 2002, pour faire court, le mandat d'Europol a été étendu pour couvrir toutes les formes graves de la criminalité internationale énumérées dans l'annexe de la convention d'Europol.
Très bien, merci Geoffrey. Alors, pour cette petite explication sur Europol...
Ne me demandez pas le mot du mois prochain, je le connais pas encore.
Ouais, hein. Je crois que t'es là pour ça, d'ailleurs. Hein.
Ouais, je crois là.
Donc, écoutons maintenant un petit morceau de musique libre, parce qu'à Divergence, on aime bien ça, la musique libre.
Oui.
Et pour ma part, j'aime beaucoup Revolution Void, c'est un groupe de nu jazz, je sais pas si tu en as déjà entendu parler.
J'aime beaucoup le nu jazz, oui.
C'est donc c'est un groupe que l'on peut découvrir sur Internet, il suffit de taper Revolution Void dans votre moteur de recherche favori.
Mais, quel magnifique accent.
Merci, mais pas la peine de bouger puisqu'on écoute tout de suite un morceau As We May Think de l'album Thule Thread, un album sous licence Creative Commons 3.0 by NCSA.
Allons-y.
Nous sommes de retour sur les ondes de Divergence FM avec nos invités Jean-Claude Jégot et Gérard Rousset, deuxième partie de l'émission Europe 27. Donc nous attaquons le débat de ce mois-ci, à savoir le rôle de la Maison de l'Europe de Montpellier. La Maison de l'Europe, elle a été créée en 1983 à Montpellier. Georges Frêche était mêlé au projet d'une certaine façon, alors qu'est-ce qui a favorisé la création d'une de ces maisons à Montpellier ?
Je crois la volonté de Willy Klein au départ, très très européen, je dirais son histoire personnelle, hein, autrichien anti-nazi, résistant contre le régime nazi d'abord dans son pays, puis après en France, qui avait épousé d'ailleurs Gisèle Klein, qui était elle néerlandaise d'origine. Donc c'est déjà un beau parcours européen, je dirais, d'un point de vue strictement personnel, et convaincu que la paix en Europe devait passer par justement la construction européenne. Et c'est lui qui a pris cette initiative est soutenu en 1983 par celui qui était à l'époque pas encore maire assez récent, hein, puisque élu en 77, hein, Georges Frêche, qui est pro-européen, hein, favorable à la construction européenne, et donc qui a épaulé sans jamais, je crois, s'impliquer vraiment très fortement. Il avait d'autres chats à fouetter, hein, à tête de la ville de Montpellier, mais soutenant fortement l'idéal que poursuivait Willy Klein.
Jean-Claude Jégot, Gérard Rousset, la Maison de l'Europe est installée à l'Hôtel Sully à Montpellier, dans la Maison des Relations Internationales, avec les autres maisons internationales. Est-ce que vous êtes bien installé à l'Hôtel de Sully ?
Je dirais oui, même si c'est plutôt Gérard Rousset qui peut répondre, puisque c'est lui qui travaille au quotidien, hein, c'est lui le permanent, hein, alors que comme ça, une association, le président de l'association, je ne suis pas là tous les jours. Mais effectivement, bon, j'ajouterais d'ailleurs qu'on a toujours rencontré une oreille favorable, hein, des autorités de Montpellier, puisque je ne ferai pas tout l'historique de nos multiples déplacements, mais enfin, on s'est trouvé, avant de venir à l'hôtel de Sully, au rez-de-chaussée de l'hôtel de l'Aglo, hein, qui était l'hôtel du district à l'époque. Oui. C'était un peu juste, d'ailleurs, c'était un peu à l'étroit, puis bon, l'Aglo avait besoin de récupérer ce local, et c'est le moment où Georges Frêche avait fait réhabiliter cette belle maison, hein, qui est au bout de l'esplanade, pour en faire une maison des relations internationales, et on nous a proposé d'être logés là, que nous avons accepté tout de suite, parce que c'est évidemment remarquable comme situation, et puis les locaux sont tout à fait agréables, fonctionnels, et on a quand même un espace que beaucoup d'autres maisons d'Europe, d'ailleurs, en France, nous envient.
Le but principal de la Maison de l'Europe de Montpellier, c'est l'information du citoyen sur les questions d'ordre européen. C'est pas un peu vague, ça, comme mission ? Ça veut dire quoi, concrètement ?
Oui, c'est vague, mais disons que notre vocation, c'est justement d'être très généraliste. Sur tous les domaines concernant l'Europe, on ne peut pas prétendre avoir une connaissance très pointue sur tous les sujets de l'Europe. L'Europe, de toute façon, produit des kilos de documents tous les jours. Hein, mais c'est donc de renseigner le citoyen, je dirais de 7 à 77 ans, hein, pour paraphraser Tintin, de manière générale, lui faire comprendre ce qu'est l'Europe. Il y a beaucoup à faire, hein, vous savez, on s'en est aperçu quand même. Dans les différents débats qu'il y a eu ces dernières années autour de l'Europe. Et puis, si on s'adresse à nous pour avoir des renseignements plus précis, c'est notre rôle de les aiguiller. On a un rôle d'aiguilleur, de rerouteur vers des structures alors qui ont des compétences plus affinées, plus particulières dans tel domaine. On a de multiples liens avec ceux qui ont les réponses adéquates sur des problèmes pointus.
Vous pensez que ce n'est pas trop dur d'expliquer l'idée européenne vraiment simplement et concrètement ?
Oh oui, c'est pas simple, surtout que les politiques, d'une manière générale, hein, et je veux pas faire là ni d'anti-parlementarisme, ni d'anti-politique, hein, mais souvent ont tendance à caricaturer l'Europe, hein, bouc émissaire, alors notamment dans telle ou telle famille, ben peu importe. On le sent bien, hein, dans des débats, lorsqu'il y a des scrutins, notamment, je pense au référendum sur la Constitution européenne, il s'est dit des tas de choses. Bon, on peut être contre ou pour, hein, ça, c'est tout à fait normal, hein, le plan de la citoyenneté, mais on a entendu des choses absolument ahurissantes. Donc on rame un peu pour nous essayer de dire ce qu'est l'Europe. Après, bon, le citoyen se détermine librement à partir des infos qu'il a. Hein. On ne fait pas de la propagande, hein. Ce n'est pas notre rôle, mais de faire de l'information, comme elle dit.
C'est pas difficile d'expliquer l'idée européenne de façon pédagogique ?
Avec des enfants, ce n'est pas très compliqué. Ça se passe assez bien, je veux dire, parce que les enfants n'ont pas d'a priori. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand il y a de l'émotionnel au milieu de tout ça. C'est-à-dire que vous avez des réflexes. Parlons par exemple de l'euro. Vous avez des réflexes de dire « Ah oui, mais depuis qu'il y a l'euro, tout est plus cher. Ben, » c'est intéressant comme réflexion, parce que c'est vrai que tout est plus cher depuis qu'il y a l'euro, mais pas parce qu'il y a l'euro, c'est parce qu'il y a effectivement une évolution du cours de la vie. Quand l'euro est arrivé, c'était en 2002, hein, si je me trompe pas, hein, et donc ça fait maintenant 8 ans. Quand on entend des jeunes qui ont 20 ans, ils avaient 12 ans à l'époque, comment ils peuvent comparer le panier de la ménagère, si ce n'est qu'ils ne font que répéter des choses qu'ils ont entendues ? Ça devient plus compliqué. Les gens vous disent « Ah oui, mais les institutions, c'est compliqué, c'est pas transparent, c'est pas comment ça fonctionne. » Mais est-ce que les gens savent comment fonctionnent les villes ? Quel est le domaine de compétence d'une ville ? Quel est le domaine de compétence d'un département ? Quel est le domaine de compétence d'une région ? Quand on leur parle de leurs députés, ils savent à peu près de quoi il s'agit. Mais quel est le rôle d'un député, si ce n'est que de temps en temps, quand on a un souci, on va aller le voir parce qu'on a un problème avec une administration et pour essayer de déblayer le truc. Donc on est là-dedans, face à des gens qui reprochent un peu une absence de clarté au niveau des institutions européennes. Mais si on fouille un peu, on s'aperçoit que les institutions françaises sont pas bien plus claires pour eux.
C'est quoi le problème alors? On parle pas assez de l'Europe ou c'est simplement que les gens n'ont pas forcément un désir de savoir comment ça marche?
Je crois que ça a été bien vu. On l'a vécu avec le président quand pour les 50 ans du traité de Rome, on a été à Rome justement pour un voyage. Et une chose qui est revenue, c'est qu'aujourd'hui l'Europe ne fait plus rêver. Autant à une époque, quand il s'agissait effectivement de paix, de notions fortes, de démocratie, c'est quelque chose qui faisait vibrer les gens. Aujourd'hui, quand on leur parle de paix, de démocratie, pour eux c'est installé. Il n'y a pas de grands projets, il y a des grands projets, mais qui sont mal perçus, mal compris.
Et mal expliqués. Des torts européens.
Tout à fait. Mais des projets comme ITER, par exemple, c'est des projets qui ne touchent pas le citoyen, alors que c'est quand même, effectivement, au niveau de l'énergie, c'est quelque chose de fabuleux. Des projets comme Galileo ne font pas rêver. C'est vrai qu'il y a eu des projets Hermès, la navette spatiale européenne, qui a capoté. Mais aujourd'hui, par exemple, Ariane Espace ne fait pas rêver. Parce que maintenant, c'est passé dans le flou, dans le courant.
C'est pas parce qu'elle est un petit peu trop économique, cette Europe? Parce que finalement, l'économie, ça fait pas forcément rêver.
Oui, c'est possible, hein, même si, de toute façon, elle s'est faite, comme Monet le disait, hein, parce que c'est par l'économie qu'on a pu la construire, hein, à petits pas. Qu'aujourd'hui, la France est attachée à la seule grande politique qu'a construite l'Europe, et qui est la politique agricole commune. Le reste est mis en ajout, mais moins structuré que n'est la PAC. Alors, c'est vrai que l'économie, ça ne fait pas toujours rêver, puis on est en crise quand même. Ça ne facilite pas les choses. En toute période de crise, ça rend les choses plus difficiles. Et puis l'Europe, elle est souvent perçue, y compris sous ce plan économique, comme faite de contraintes. Au fond, c'est la règle de la majorité, et de plus en plus, hein, qui l'emporte. Et ça ne plaît pas toujours. Et on présente toujours l'Europe comme celle qui empêche de tourner en rond.
Particulièrement en France, d'ailleurs.
Oui, notamment en France. Et ça, ça revient constamment, d'ailleurs. Hein. Si ça ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Hein. C'est un peu le bouc émissaire. Alors, elle a ses torts, l'Europe. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait au niveau de l'Europe. Mais on ne met en valeur... Souvent, dans les grands médias, notamment la télévision, hein, on parle en grande partie de l'Europe que quand ça va mal, quand il y a quelque chose qui va mal.
Pour en revenir à la Maison de l'Europe, il est écrit dans les statuts de l'association, puisque la Maison de l'Europe de Montpellier est une association, il est écrit que cette association a pour but de favoriser la construction d'une Europe fédérale unie. C'est un grand projet. C'est pour quand, finalement, cette Europe fédérale? Comment est-ce que vous allez faire ça? Enfin, c'est utopique.
Oui.
Bon, il faut savoir vivre d'utopie, déjà. Oui.
dire là, que ces statuts, c'est pas nous qui les avons rédigés. Hein,
C'est la faute aux autres, alors.
Non, mais je crois que c'est intéressant que vous les ayez cités, d'ailleurs, parce qu'ils reflètent la pensée d'un moment de cette construction européenne, et notamment la pensée qui était celle de nos aînés. Je suis plutôt jeune, hein, vous le voyez, mais... D'un Willy Klein, et des hommes et des femmes qui l'entouraient.
Ouais, qui a été le premier président de la Maison d'Europe.
Où on croyait encore une Europe fédérale. Moi, je ne pense pas qu'on aille vers une Europe fédérale, même si je pense qu'il faut, on en met toujours d'ailleurs de plus en plus, l'euro. C'est bien quand même un élément fédéral, hein, puisque même si les 27 ne sont pas l'euro, il y a progressivement de plus en plus de pays qui sont. Mais je reprendrai la formule qu'avait lancée Delors, même si juridiquement elle est peut-être un peu difficile à expliquer, hein, mais Delors parlait d'une fédération d'États-nations, ce qui peut paraître antinomique. Hein, États-nations, c'est donc pas une fédération, c'est pas sans plus à une confédération. Mais c'est une construction qui est un peu hybride, qui correspond à rien de ce qui existe déjà. C'est en ça que c'est intéressant, d'ailleurs, à la construire. Alors, je prétends pas me faire l'Europe fédérale à partir de Montpellier. Non, il s'agit d'expliquer que, surtout maintenant qu'on est 27, c'est encore plus difficile à expliquer qu'avant, hein, qu'il faut que je joue vraiment des solidarités entre nous, vis-à-vis des pays qui sont un peu en retard de développement, hein, notamment ceux qu'on a intégrés au début des années 2000, enfin en 2004, ou en 2007 même, hein, encore plus, hein, pour la Roumanie et la Bulgarie. Donc qu'il faut savoir redistribuer aussi, c'est un peu la justice redistributive qu'on essaye de faire valoir souvent dans nos pays, mais dans notre propre pays, il faut le faire au niveau de l'Europe. Alors ça, ça plaît pas toujours, parce que en plus, je dirais, je vais pas être beaucoup plus long, mais ce qui rend les choses compliquées à l'heure actuelle, c'est qu'on assiste à une sorte de renationalisation de l'Europe, notamment à travers un budget qui s'est rétréci. Quand on sait que, alors que quand on était à 15, ça a monté jusqu'à 24-25%, et la barrière, c'était pas très haut d'ailleurs, 1,27% qui était indiqué. Aujourd'hui, on est à peine au-dessus de 1,04. Et donc, c'est un budget beaucoup trop juste pour les efforts qu'il y a à faire. Comment voulez-vous mener de grandes politiques fédérales, en votre mot, quand vous avez un budget qui est de l'ordre de 1% du PNB européen? Quand on sait aussi qu'aux États-Unis, ce qui est d'ordre fédéral représente 14% du PNB. Alors certes, on va comparer l'Europe des 27 aux États-Unis, mais enfin, on a un système fédéral, de responsabilité fédérale, mais qui ont 14% du PNB ou du PIB, peu importe. Nous, 1%.
Oui, d'ailleurs, il me semble que c'est Victor Hugo qui parlait des États-Unis d'Europe.
Ah oui, c'est un magnifique discours. Ça. Si vos auditeurs ne le connaissent pas, il faut qu'ils le lisent, le connaissent, parce que c'est un discours de visionnaire.
Et Gérard Rousset, alors, l'Europe fédérale, c'est possible?
Je ne suis pas là pour, effectivement, expliquer Europe fédérale, Europe des nations. Je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, je suis dans le débat de la connaissance.
C'est quand même... l'Europe fédérale unie est quand même dans les statuts de l'association.
Oui, mais quand on voit les programmes européens aujourd'hui, les programmes européens s'adressent beaucoup aux régions aujourd'hui, et pas aux États, pas essentiellement aux États. Il y a beaucoup de programmes qui sont gérés directement région par région. Donc là aussi, comment tout ça, ça se situe, pour rebondir aussi sur ce que disait le Président tout à l'heure, les budgets, comme il l'a expliqué, les budgets de l'Union européenne, les budgets fédéraux se diminuent, ont tendance naturelle à diminuer. Et en même temps, on entend des gens qui disent « Ah mais oui, mais l'Europe n'en fait pas assez ». Alors il faudrait savoir comment on peut faire plus avec moins. J'avoue que j'ai un problème d'ordre mathématique à régler.
On s'est acheminé quand même au niveau européen, pas à la maison de Montpellier, mais vers une Europe de type fédéral quand même, puisque... Et notamment, d'ailleurs, là, si le traité de Lisbonne, dernier avatar de la Constitution européenne, est totalement ratifié avec la signature du président tchèque, ce qui n'est pas fait encore, mais enfin, la plupart des grands dossiers se régleront à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Il y a très peu de dossiers maintenant, même s'il y a l'important dossier de la fiscalité, ça c'est important, mais les Anglais bloquent là-dessus. Qui se font la majorité qualifiée. On est donc là dans un système qui se rapproche quand même d'un système fédéral, puisqu'on peut, par la règle de la démocratie, se voir obligé d'appliquer une politique sur qu'on n'a pas votée. Si on est dans la minorité, on applique ce que la majorité a décidé. On l'admet bien dans notre pays, Dieu merci d'ailleurs, c'est ça la démocratie. C'est une minorité, on se bat pour essayer de devenir majoritaire, mais enfin on se plie à la règle que décide la majorité quand même.
Puis l'Europe se construit aussi au travers de nations qui existent, préexistantes, et qui ont des modes de fonctionnement très différents les uns des autres. Quand vous parlez de région, si vous en parlez avec un Allemand, c'est pas la même chose que pour un Français, mais c'est pas la même chose que pour un Italien, parce que la région italienne, c'est pas la région allemande, et c'est pas la même chose que les Espagnols, où le mot région recouvre d'autres réalités. Et donc, dans chaque État, on s'aperçoit que le mot région n'a pas du tout la même signification. Donc, il faut se redéfinir systématiquement les termes les uns par rapport aux autres.
Et pour en revenir à la Maison de l'Europe, que vous organisez des événements dans le cadre de la Maison de l'Europe, il y a notamment le programme européen Grundvig. Comment ce genre d'événement s'organise? Est-ce que c'est à votre initiative?
Il faut savoir que il existe un grand nombre d'événements qui existent. Vous avez par exemple, vous faites allusion au programme Grundvig monté par l'association Horizon. Si vous voulez, nous, on n'intervient pas, mais vous pourriez me parler de programme Comenius, par exemple, qui se monte par l'éducation nationale, quand il y a des élèves qui se rencontrent. Donc nous, on n'est pas à la base de toutes ces choses-là. L'éducation nationale monte ses propres projets, des associations montent leurs propres projets. Il y a eu des associations qui ont monté des projets d'échange aussi, pour lesquels ils nous ont sollicité, parce qu'ils cherchaient des partenaires. Je pense au niveau d'une troupe de théâtre qui cherchait des chorégraphes et qui cherchait des gens pour monter des opérations sur des chorégraphes entre Montpellier et d'autres pays. Ils sont venus nous trouver en nous demandant « Est-ce que vous connaissez là-bas ?» On a pu les mettre en relation et ils ont pu trouver un partenaire pour monter ces programmes-là. Bon, il y a plein de choses comme ça qui se font. Alors, il y a des choses qui se font parce que nous, on est dedans, parce qu'on nous sollicite. y en a des, parce que les gens ont leur propre contact et qu'ils le font directement. Je pense à tous les programmes de recherche, je veux dire, qui se font aux universités, oui. Ne passent pas par nous.
Oui, mais pour donner deux exemples concrets, justement, à la fois de partenariats et puis de choses que, dont on prend l'initiative. Récemment, on a aidé une autre association amie, hein, qui est Démocratie Languedoc, hein, qui a monté un colloque sur la cybercriminalité, qui a voulu donner une dimension européenne, évidemment, parce que tout ce qui est cyber, oui, hein, est transfrontalier par définition. Et grâce à nous, on a pu faire venir le directeur général, de la DG Justice, hein, dépend de la commission de Bruxelles, Jonathan Fall, oui, un anglais très sympa, qui parle très bien français d'ailleurs, qui est venu présenter un peu comment sa direction générale voyait cette question, hein, de la répression de la cybercriminalité. Par ailleurs, autre exemple, le 5 novembre prochain, dans nos locaux, enfin dans les locaux de la Maison des Relations Internationales, nous faisons venir, alors là en partenariat d'ailleurs avec l'Institut Maïmonide, M. Barnavi, hein, Elie Barnavi, alors qu'on connaît beaucoup comme ancien ambassadeur d'Israël, mais qui viendra surtout comme responsable aussi du musée européen et surtout comme auteur d'un ouvrage très roboratif d'ailleurs qui s'appelle l'Europe frigide. Ça participe de cet effort, je dirais, pédagogique, hein, de l'Europe en invitant tel ou tel. Hein.
Comment alors le citoyen français, qui aussi est citoyen européen, comment est-ce que lui peut se mettre un peu dans cet esprit pédagogique? Comment est-ce qu'il peut participer à ces événements, ce genre de choses qui se passent?
C'est pas très compliqué, en fait. Il faut qu'il reprenne son âme de militant et qu'il vienne nous voir. Mais oui, mais parce que ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Pas seulement d'ailleurs chez nous, mais dans toutes les associations. Je dirais le militantisme aujourd'hui, nous avons des utilisateurs d'associations. C'est-à-dire des gens qui viennent pour à quoi j'ai droit?
Des consommateurs.
Des consommateurs. Et pas des gens qui viennent pour militer. C'est-à-dire dire, moi, j'ai envie qu'on travaille là-dessus, etc. J'ai envie qu'on développe telle opération. Nous, on est tout à fait ouverts, justement, à ce genre de choses. Mais les gens viennent dire en disant, bon, je viens faire mon marché.
Ceci dit, quand même, et là, Gérard Rousset est trop modeste, on s'est rendu compte, et là, je reprends une phrase que Rousset a prononcée bien souvent, hein. Bruxelles, c'est loin. Hein, pour le citoyen de Montpellier, mais Castelnau-le-Lez, c'est presque aussi loin que Bruxelles par rapport à la Maison de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on est inscrit maintenant dans le réseau Europe Direct, réseau qui doit faire de l'information, qui est labellisé par la Commission européenne, et qui doit faire de l'information sur la région. On a créé ce qu'on appelle des points Europe dans les communes, là où évidemment les autorités municipales ont accepté de signer une convention avec nous, principalement pour l'instant dans l'Hérault, mais dans le Gard aussi, hein, on fait petit à petit, et on est quand même pas une grosse association, donc il faut y aller progressivement. On cherche à apporter l'information européenne au plus près du citoyen, chez lui, et non pas le faire venir chez nous, parce que c'est une démarche, là, comme disait Gérard Rousset, militante, mais qui n'est pas évidente, toujours. C'est quand même plus près pour le citoyen, il est mieux à même, et là, il trouvera la documentation, il est en relation avec nous aussi, et donc ça participe d'un très fort pédagogique.
Et justement, au niveau documentation, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur la base documentaire que vous entretenez à la Maison de l'Europe?
Alors, la base documentaire que nous entretenons est constituée essentiellement de documents que l'on reçoit de la Commission européenne. Elle a été formée de ça au départ. Il y avait beaucoup de documentation papier qui arrivait, de moins en moins aujourd'hui, puisque tout se passe de plus en plus par Internet. Donc, en fait, nous, on repère en fait des sites. On se lie à ces sites de plus en plus. C'est vrai qu'on a aussi de la documentation papier, hein, ça pour des opérations grand public, etc., quand on est présent sur un salon de l'emploi, quand on est au salon de jeunes, etc., quand on est présent. Donc on a cette documentation à distribuer. Mais les gens peuvent venir chez nous aussi pour consulter cette base documentaire.
Des ouvrages fondamentaux sur l'Europe, des outils de travail même, il y en a beaucoup, hein, qu'ils soient à caractère historique, juridique ou autre. Alors, on dirait qu'il y a les bibliothèques universitaires, certes, mais là, les étudiants les connaissent bien. Ce serait bon que la Maison de l'Europe soit un lieu où on puisse trouver, justement, des ouvrages de documentation sur l'Europe, des documentations de fond, et pas seulement des prospectus sur tel ou tel aspect politique. Et l'idée que nous voudrions développer avec le Conseil d'administration de la Maison de l'Europe, c'est justement d'organiser des sortes de... Enfin, j'emploie un mot à la mode, mais de Café Europe à partir d'ouvrages qui viennent de sortir ou qui sont sortis récemment. C'est un peu dans cet esprit-là que Barnavi va venir. Hein, notre invité, il a sorti un bouquin intéressant, on le fait venir. Ben, on espère ainsi développer petit à petit, selon ce schéma, cette bibliothèque de l'européen, de l'honnête européen.
Une dernière question sur la Maison de l'Europe. Un des rôles principaux de l'Europe, c'est aussi de distribuer des subventions à travers l'Union européenne. Est-ce qu'il n'existe pas une sorte de concurrence entre les maisons de l'Europe en France? Parce qu'il y a un réseau de 34 maisons en France. Est-ce que vous faites pas un peu la course avec, par exemple, la Maison de l'Europe de Pyrénées-Roussillon? Vous n'êtes pas un peu deux sur le même terrain?
Ou celle de Nîmes, par exemple. Non. Je crois qu'effectivement, la question européenne n'est pas liée. D'abord, vous en faites une question financière. Ce n'est pas qu'une seule question financière.
Hein? En réalité, nous sommes un réseau solidaire au sein de la Fédération française des maisons de l'Europe. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis membre du conseil d'administration de la fédération au niveau fédéral. Et je suis même, depuis maintenant un an et demi, dans le bureau trésorier national. Non, on travaille en bonne solidarité et... La subvention que verse, puisque vous parlez de subvention, le ministère des Affaires européennes transite par la fédération, qui après reventile. Et donc sur les dossiers qui remontent à la fédération, sur les actions qu'on a menées, eh bien, on a notre part d'aide du ministère des Affaires européennes.
Merci Jean-Claude Jégot, merci Gérard Rousset.
Merci.
Merci.
Faisons maintenant une petite pause musicale avant de passer à la dernière rubrique de l'émission, un morceau de musique de Renaud.
Oh.
Oui, qui, à l'instar des Fatal Picard lors de l'Eurovision de 2008, il me semble.
2007.
2007.
Voilà, je vérifie avant de venir.
Super. Il fait bien son boulot, en plus.
Eh oui.
Donc qui, Renaud, qui, comme les Fatal Picard, s'est amusé à mélanger le français et l'anglais dans un même morceau.
Donc du franglais.
Oui, c'est du Renaud, d'une certaine façon. Et donc, le titre du morceau, c'est It Is Not Because You Are. On écoute tout de suite Renaud.
I have rencontred you. You was a jeune fille au père. And I put a spell on you. And you wrote a bell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. It is not because you are, I love you. Because I do, c'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you. You was really beautiful, in the middle of the fool. Don't let me misunderstood, don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow, you are belle and I are beau. Give me all what you have. I say thank you. You are bien brave. It is not because you are. I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me. Que I am you. Que I am you. This is a musical bridge. Did marry with you and make love very beaucoup to have a max of children just like Stone and Chardin. But one day that must arrive. Together we disputed for a stupid story of freak. We decide to divorce. It is not because you are I love you. Because I do, c'est pas parce que you are me, I am you, I am you. You chialed comme une madeleine, not me, I have my dignity. You tell me you are a sale mec, I tell you, poil to the bec. That's comme ça that you thank me, to have learning you English. Et that's not you qui m'a appris. My grandfather was roast beef. It is not because you are I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me. I am you. I am you. It is not because you are I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me. I am you. Kayamyu.
Vous êtes bien sur Divergence FM et nous entrons dans la dernière partie d'Europe 27, une troisième partie donc consacrée à la découverte de nos voisins européens. Ce mois-ci, comme on vous l'a dit en début d'émission, ce sera le portrait de la Pologne avec Eric Siemior, un son réalisé avec Hélène Smith et Julia Chamaudon.
On les remercie bien.
Tout à fait.
Bonjour Eric Siemior.
Bonjour.
On est là pour parler de la Pologne. Vous avez des origines polonaises. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, en fait, en tant que personne polonaise, entre guillemets?
Oui, eh bien c'est très simple. Moi, je suis français. Mes parents sont polonais. Ils sont émigrés en France suite au conflit. Et j'ai une vision de la Pologne un petit peu de l'ancien monde, avant-guerre, et une vision de la Pologne actuelle, dans la mesure où j'ai eu l'occasion d'aller en Pologne à plusieurs reprises, tant pendant la période, disons, communiste, après la libéralisation qui a eu lieu suite à la chute du mur.
Quelle idée ont les Polonais de l'Europe ?
La Pologne s'est toujours sentie européenne, il faut le savoir. L'identification maintenant à l'Europe pour les Polonais, c'est quelque chose de facile, dans la mesure où ils se sont sentis, comment dirais-je, séparés d'une manière arbitraire au travers des vicissitudes de l'histoire. Mais les Polonais se sont toujours sentis européens. Je suis, comment dirais-je, excessivement heureux qu'il y a eu ces mouvements démocratiques d'ouverture qui ont enfin pu permettre à la Pologne de rejoindre l'Europe, sachant que ça a été très long. Je crois que les Polonais ont longtemps attendu cette situation. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à effectuer de la part de la nation polonaise en très peu de temps. Il y a beaucoup d'efforts d'adaptation, il y a beaucoup d'efforts d'apprentissage de la démocratie, des mouvements démocratiques, des choix politiques. Il y a beaucoup d'efforts d'ouverture, il y a beaucoup d'efforts à faire sur une revisitation de l'histoire, de son passé, une actualisation, sachant que pendant des décennies, certains pans entiers de son histoire a été occulté. Et je crois que sa venue dans l'Europe va permettre, comment dirais-je, de faire de la Pologne un pays européen par entière.
Qu'est-ce qui fait qu'un Polonais est un Polonais, en fait ?
Alors déjà, on va dire que la langue d'un peuple, c'est son âme, déjà, le premier point. Un Polonais, c'est une espèce d'entité culturelle. Ce sont des liens qui subsistent, qui ont subsisté malgré la disparition du territoire au travers de la langue, au travers de la culture, au travers aussi de la religion, qui a été un ferment nationaliste, pas toujours pour des fins religieuses, mais surtout un ciment de la nation polonaise face à, disons, aux voisins orthodoxes, disons la Russie et avant les pays allemands, comment dirais-je, Calvin, etc. La Pologne, c'est le romantisme, c'est la lutte, c'est l'image de la femme aussi, gardienne des traditions pendant que les hommes étaient au combat. La Pologne, c'est toute cette culture un peu véhiculée à travers de Chopin, des grands hommes auxquels les Polonais se raccrochent pour mettre en avant une identité contre vent et marée.
Vous nous parlez de la religion, alors qu'est-ce qui fait que la Pologne est un pays si religieux, si chrétien ?
Alors il faut voir la Pologne c'est dû un petit peu à sa situation géographique. Le monde chrétien catholique s'arrête en fait avec la Pologne. Après on bascule dans le monde orthodoxe. Donc le ciment, comment dirais-je, culturel, c'est au travers de la religion catholique avec les liens avec les pays occidentaux. En Pologne, il faut savoir que, disons, le grand ciment des Polonais pendant les périodes, disons, noires, c'est ainsi que je la qualifie, le ciment était la religion. L'Église catholique a fait énormément pour aider au travers des aides internationales, etc. Ils avaient une espèce de mainmise et c'était un contre-pouvoir contre le régime. Donc l'Église polonaise a eu, comment dirais-je, un poids politique très important qui a permis aux Polonais d'accéder à la démocratisation par des voies politiques. Je trouve par contre que, profitant de cet avantage dans la société polonaise qu'avait l'Église catholique, ils auraient peut-être dû se retirer pour laisser, comment dirais-je, l'État laïque s'exprimer. Il y a peut-être, à mon sens, un peu trop de poids actuellement. Il faut que tout cela se rééquilibre, mais j'ai très bon espoir que cela se fasse assez rapidement, pour éviter tout de même une certaine dérive sectariste, etc. Je crois que, comme en France, il est important qu'il y ait une séparation prononcée entre l'État et le fait religieux.
Et vous nous parliez aussi de la tradition polonaise. Et qu'est-ce qui fait un peu le folklore de la Pologne ?
Le folklore de la Pologne, on le retrouve au travers de tous ces gens qui, au cours des siècles, ont quitté ce pays et qui s'identifient à la nation, à la mère patrie. Comme je le disais, on me le faisait dire quand j'étais enfant, moi, la France, c'est mon pays, la Pologne, c'est ma patrie. Donc une espèce de mère mythique, un petit peu romantique, qui est au fin fond, dans un coin de l'esprit.
Quelles sont ces petites choses, ces petites spécificités en termes de gastronomie ou de culture ? Vous avez évoqué des artistes de musique classique, mais dans la vie de tous les jours d'un Polonais, qu'est-ce qu'on rencontre qu'on ne rencontrera absolument pas en France ?
Ce qu'on rencontrera pas en France, ma foi, il y a peut-être une notion, comment dirais-je, ça va être peut-être un peu violent, d'hospitalité qui est excessivement forte dans ce pays-là. Par exemple, la coutume dans une tablée polonaise, c'est de conserver toujours un couvert libre pour le convive qui va passer. L'hospitalité en premier lieu. Après, les Polonais, ils ont toujours eu un grand attachement pour la France. Ce sont des choses que quelquefois les Français ignorent totalement en raison de la disparition de la Pologne derrière le mur de fer. Et les Polonais ont toujours eu un attachement au travers, à cause de la culture française, à cause de la Révolution française, à cause des écrivains français, toute cette aura que la France a, non seulement pour la Pologne, mais pour beaucoup de pays de l'Est, il faut le savoir. Quand vous allez en Pologne et que vous dites que vous êtes français, vous avez un accueil tout de suite chaleureux, différent. Vous êtes français, vous apportez plein de choses, la liberté, une vision de la démocratie, la culture, un rayonnement extraordinaire.
Sans se lancer dans une grande analyse économique, où en est la Pologne en termes de son économie ?
Alors, la Pologne actuellement est en train de bénéficier des aides européennes pour sa reconstruction. Il faut savoir que la Pologne, vu son implantation géographique et vu la période communiste, était une zone tampon entre le monde soviétique et Occident. Donc, toutes les infrastructures ont été laissées à l'abandon pour éviter éventuellement la traversée des troupes occidentales. Et actuellement, grâce aux aides européennes, le pays est vraiment en train de se reconstruire. Infrastructures, routes, hôpitaux, zones touristiques qui avaient été vraiment laissées à l'abandon.
On pourrait demander à Eric Siemers s'il avait une photo de Pologne accrochée chez lui, dans son salon, ce qu'elle pourrait représenter.
Alors pour moi, ce serait peut-être une photo de paysage. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais un petit peu bercé par ça dans mon enfance, au travers de livres qui étaient rapportés de parents qui venaient en France, et il y avait une représentation très curieusement en noir et blanc de tous ces paysages, de tous ces monuments. Et je crois que ma vision de l'enfance sur la Pologne, c'était une vision en noir et blanc. Et à ma grande surprise, quand j'ai effectué un séjour pour la première fois avec mon père en 73, alors qu'il y avait encore le régime que l'on connaît, j'ai découvert que la Pologne était un monde en couleur.
Et cette photo, elle représenterait quoi ?
Ce serait un mélange assez un petit peu romantique, donc paysage, des gens en costume, on va dire, traditionnels, folkloriques, qui ont prévalu longtemps. Ce serait des visions de gens, une vision d'un monde un petit peu petit religieux, une présence catholique bien sûr, une présence, grande présence de la communauté des juifs polonais, une présence musulmane, une présence orthodoxe, une représentation un petit peu d'une grande variété culturelle, religieuse. Une vision peut-être de tolérance. La Pologne est par exemple sur la présence de la communauté juive. Il faut savoir qu'en Pologne, pendant 1000 ans, les juifs ont été présents. Ça pourrait être aussi...
Tout ça sur une photo.
C'est une photo, une suite d'images, disons, un défilement d'images. Et un son, moi j'étais bercé dans mon enfance par la musique de Chopin, des polonaises, valse bruyante, etc. Donc tout ça est mélangé. C'est un espèce de cocktail, mon cocktail à moi.
Voyagé à l'étranger récemment, j'ai observé par des liens que j'entretenais avec des jeunes polonais qu'il était difficile de trouver du travail en Pologne lorsqu'on était jeune actuellement et qu'il y avait des difficultés économiques qui se ressentaient de manière assez forte. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus à ce sujet-là ?
Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la jeunesse polonaise, il y a deux types de jeunesse. Je vais la classer d'une manière un peu schématique. Il y a les jeunes polonais qui ont une envie pressante de découvrir l'Occident, toutes ses facilités, sa richesse, sa variété, et qui souhaitent éventuellement quitter le pays. Maintenant, avec l'ouverture sur l'Europe et la liberté de circulation, ils s'efforcent de rayonner sur l'Europe et aussi sur le monde. Et il y a une autre catégorie de jeunes Polonais qui, bien conscients, disons, de l'attrait de la consommation, souhaitent rester dans leur pays et, malgré des difficultés économiques, des salaires bas, malgré des diplômes, souhaitent contribuer à l'élaboration d'une Pologne jeune, démocratique, moderne.
Ça s'avère tout de même difficile ce qui concerne les études universitaires également.
Oui, les possibilités effectivement sont assez réduites dans la mesure effectivement il y a des disparités très importantes. Ces disparités à une période avaient tendance un petit peu à diminuer. Malheureusement, maintenant, avec les conséquences, disons, ce qu'on en appelle d'une manière très, très schématique, la crise, effectivement, l'écart s'accroît et les difficultés sont de plus en plus importantes. Au niveau, tout simplement, par exemple, un jeune qui veut acheter un compact disque, ça devient très difficile pour... c'est un exemple un peu banal, mais qui est significatif.
Et qui témoigne d'un accès à la culture un petit peu plus restreint, du coup.
Du coup, effectivement, sachant que, disons, l'accès à la culture pendant la période communiste était quand même favorisé par le pouvoir. Bon, c'était orienté... Mais néanmoins, tout un chacun avait accès à ces possibilités. Choses maintenant qui sont passées dans le domaine quand même privé, donc avec les difficultés inhérentes pour un jeune étudiant avec des ressources modestes.
Malgré ces difficultés économiques, de quoi rêvent en fait ces jeunes Polonais ?
Les jeunes Polonais, disons, ils rêvent à tout ce qu'ils n'ont pas eu, ou tout ce que leurs parents n'ont pas eu, c'est-à-dire un pays, on va dire... je crois, laïque, démocratique, avec les valeurs qui prévalent depuis longtemps en France. Cette espèce de liberté que l'on a chez nous en France et qu'ils n'ont pas pour des raisons politiques, historiques, et puis maintenant pour des raisons peut-être gouvernementales où il y a des restrictions. Et j'estime, en tant que Français, Polonais, un petit retour en arrière au niveau des choix des gouvernants polonais. Je trouve qu'il est un peu dommage que ce pays qui avait une grande chance démocratique fasse quelques retours en arrière malheureux, sachant que ce n'est le fait que de quelquefois d'élections de certains personnages... des peurs, les gens ont peur. Il faut savoir qu'en Pologne, pendant la période du régime communiste, les gens étaient protégés tout de même dans leur emploi, dans la santé, dans l'éducation. Tandis que maintenant, avec l'ouverture sur le monde moderne, là, ils se sentent un petit peu... peu apeurés et ils ont tendance à avoir des réflexes un petit peu de retour en arrière, nationalistes, un petit peu primaires. Et je crois qu'il est important que l'Europe fasse des ouvertures, explique correctement aux Polonais que l'avantage qu'offre l'Europe, c'est de faire partie de cette série de Polonais qui peuvent avancer tous ensemble dans la direction d'une modernité qui est désirée, je pense, par l'ensemble de la population polonaise.
C'est un peu le choc de la mondialisation, en fait.
On peut le dire, oui, le choc de la mondialisation touche particulièrement, on le voit au travers des pays européens traditionnels, mais aussi la Pologne. Il faut savoir qu'on demande à tous ces pays de l'Est qui rentrent en Pologne de s'adapter en quelques années à une situation que nous, Français, Européens, avons mis des décennies à entériner, digérer, transformer. Donc c'est un gros effort qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'ouverture.
Justement, en parlant de mondialisation et de cette situation économique, j'ai pu voir dans un reportage il y a quelques temps, c'est assez vieux, j'ai vu des Polonais en fait qui payaient en dollars américains. Est-ce que c'est vrai cette place du dollar en Pologne en tant que Français, ça paraîtrait incroyable de payer avec une devise autre que l'euro en fait.
Alors je vais vous donner un exemple très significatif qui va vous éclairer un petit peu sur cette question de primauté du dollar, comment dirais-je, dans l'économie polonaise. Un exemple. Pendant la période communiste, il y avait des étudiants qui réussissaient à sortir et à travailler, par exemple au Canada, en Angleterre, même en France. Et j'ai l'exemple comme ça d'une parenté qui, avec 500 dollars issus du Canada, a pu acheter, au moment de la libéralisation de la Pologne, un appartement au centre de Cracovie, 500 dollars. Sachant qu'actuellement, avec l'ouverture, le prix des appartements dans la vieille ville de Cracovie équivalent à ceux de Montpellier.
Oui, en effet, ça fait rêver plus d'un Montpellier, hein, ça, à mon avis.
Je l'imagine, oui.
Est-ce que ces devises, finalement, étrangères, parce que la devise polonaise, c'est le zloty, ça donne une vocation, entre guillemets, internationale à la Pologne?
Oui, il faut savoir que jusqu'à présent, la monnaie polonaise, le zloty, a prévalu pour des questions de protectionnisme et toujours une question de peur. Mais l'euro va être aussi la monnaie nationale en Pologne.
C'est pour quand?
Alors là, vous me posez une question, je ne saurais pas vous répondre.
Merci beaucoup, Eric Simor.
Ça a été un grand plaisir de pouvoir m'exprimer sur la Pologne et sur l'Europe.
Ce premier numéro d'Europe 27 touche à sa fin. Le prochain rendez-vous européen sera diffusé le mardi 24 novembre. Retenez bien cette date. Ce sera l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Union européenne. Le temps de faire une petite remise à niveau pour nous, je pense. Hein, qui, quand, où, pourquoi et comment?
Ah bah c'est pour nous, mais c'est surtout pour les auditeurs, de faire un petit topo sur l'histoire de l'Union européenne.
Car on en sait très peu au final.
Oh non, ne dis pas ça, ça nous décrédibilise totalement.
Non, pas du tout. Justement, on va apprendre aux gens, c'est très bien d'apprendre.
Ça y me fait la morale à la radio.
Alors, parmi les invités, il y aura monsieur Muraciol, professeur à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Et monsieur Lebozek, professeur d'histoire.
Oui, à Montpellier aussi.
J'espère que vous avez eu plaisir à nous écouter.
Donc voilà, on va se quitter pour cette première émission sur un morceau de musique polonaise que notre invité nous a gentiment conseillé. Donc c'est de la musique ashkenaz, si je lis bien ma petite fiche, donc de l'Europe de l'Est, c'est de la musique juive. C'est un groupe amateur parisien qui s'appelle le Frédilec Trio. Je vous dis au revoir et au mois prochain.
Merci à Gilles, merci à vous.